Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient comme tous les jours. RFI vous propose de commenter l'actualité et ce matin, eh bien, vous réagirez à la comparution du président kényan devant la Cour pénale internationale. L'audience doit commencer maintenant dans un peu moins d'une heure. Les avocats d'Uhuru Kenyatta vont bien évidemment demander l'abandon des poursuites, d'autant que la procureure de la CPI réclame un report du procès faute de preuves suffisantes. En tout cas, le moment sera incontestablement historique pour la première fois, un chef d'État en exercice comparaîtra devant la Cour pénale internationale. Uhuru Kenyatta, je vous le rappelle, doit répondre du chef d'accusation de crimes contre l'humanité pendant la crise post-électorale de 2007. Alors dites-nous, ce matin, si le président kényan a raison finalement de se rendre à cette audience alors que l'Union africaine exige l'immunité pour tous les présidents en exercice. On sait que l'Union africaine a plusieurs fois accusé la Cour pénale internationale de ne poursuivre que des Africains. Dites-nous quel regard vous portez sur l'action de la CPI. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Les réseaux sociaux fonctionnent à merveille ce matin. Près de 400 messages postés sur la page Facebook de l'émission. Des réactions également sur le compte Twitter de notre émission. @appelactu, voilà, pour être précis, c'est l'adresse de notre compte Twitter. Je lirai évidemment quelques-uns de vos commentaires tout à l'heure pour alimenter ce débat. Mais d'abord, ce sont donc vos questions à la rédaction, des questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons tout au long de la journée sur notre antenne. Beaucoup de questions encore ce matin concernant la lutte contre l'organisation État islamique. Toufik Ben Aïchouch du service international des RFI est déjà installé dans ce studio. Bonjour Toufik.
Bonjour.
On va prendre ce matin quelques-unes des questions des auditeurs. La première nous vient de Côte d'Ivoire. Nous allons à Abidjan. Bonjour Mathias.
Bonjour Juan.
Nous vous écoutons.
Juan, moi j'ai deux questions. Mm-hmm. La première question, c'est pourquoi est-ce que la Turquie n'intervient pas militairement au sol à Kobané. Voilà. Et la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que la coalition qui a pourtant depuis bien longtemps maintenant commencé à pilonner les bases de l'EIL a mis du temps avant d'attaquer l'EIL alors qu'elle a vu venir l'EIL vers Kobané et maintenant que l'EIL est dans Kobané.
Ouais, effectivement. Toufik, ça fait maintenant 3 semaines que des combats se déroulent à Kobané, cette ville qui est située à quelques kilomètres de la frontière turque. C'est la 3e ville du Kurdistan syrien. Elle est déjà, je le disais, à quelques kilomètres de la Turquie. Mais Kobané, c'est une ville stratégiquement très importante.
Très importante, mais les intérêts divergent sur cette question. Alors, pourquoi c'est très important, par exemple, pour la Turquie? Et ça explique aussi pourquoi c'est très important pour la Turquie de ne pas intervenir pour le moment. C'est que si qui contrôle cette région, donc du Kurdistan syrien, vous l'avez dit, eh bien, ça permettrait de faire une continuité territoriale avec le Kurdistan irakien et même avec le Kurdistan kurde, puisque nous sommes à cheval sur ces 3 frontières. Donc, ce que redoute surtout la Turquie, c'est qu'il y a une jonction entre les Kurdes de Syrie, les Kurdes de son propre pays, donc la Turquie, et les Kurdes d'Irak, qui eux sont déjà très autonomes, disposent de milices très puissante, les Peshmerga. Donc, si vous voulez, la Turquie en ce moment se dit si j'interviens, je sauve la mise aux Kurdes de Syrie, mais du même coup, je risque de les renforcer. Et c'est pour ça que la Turquie pose des conditions pour intervenir. Là, c'est horrible, ça fait 3 semaines, c'est une tragédie sanglante, mais sans nom. Aujourd'hui, on se bat pour des portes, pour des rues, pour des quartiers, pour les portes de maisons.
Ouais. Kobané est le théâtre d'une guérilla urbaine en ce moment.
Puisque les partisans de l'État islamique ont pénétré dans la ville, au moins dans trois grands quartiers. Donc c'est une tragédie à laquelle assistent les soldats turcs, parce que là où ils sont positionnés avec leurs chars et tout, eh bien on voit tout. On voit le massacre. massacre sous leurs pieds.
Et la Turquie pourrait intervenir, puisqu'elle a obtenu, enfin le gouvernement turc a obtenu jeudi dernier, si ma mémoire est bonne, le feu vert du Parlement pour intervenir aussi bien en Irak qu'en Syrie.
Vous avez raison, le Parlement a autorisé le gouvernement à pouvoir intervenir aussi bien en Syrie qu'en Irak. Et la Turquie le fait pas. Alors qu'est-ce qu'elle demande en échange? Elle demande qu'on crée un corridor, une espèce de zone d'exclusion, de zone tampon, sur toute cette sur tout le territoire dont on parle. Ce qui donnerait à la Turquie la garantie qu'elle contrôlerait cette région et que donc elle empêcherait une espèce de continuité territoriale entre les peuples kurdes qui sont disséminés encore une fois en Turquie, en Syrie et en Irak. Et donc elle redoute, si vous voulez, l'établissement à l'avenir d'un État kurde ou de plusieurs États kurdes à sa porte.
Ouais. Donc alors, on cerne bien la problématique.
Elle demande
côté...
une zone d'exclusion et d'une zone d'exclusion aérienne en même temps. Ce qui signifierait que les coalisés, c'est-à-dire les États-Unis, la France, enfin l'Union européenne, tous les membres des pays de la coalition n'auraient aucun droit de regard sur cette portion de territoire.
Ah oui.
Et c'est trop cher payé, estime pour le moment les pays occidentaux.
En tout cas, Washington qualifie de terrifiante la bataille qui se déroule en ce moment à Kobané. Que peut faire la coalition? La coalition bombarde, frappe. Alors, les positions de l'organisation à Kobané, mais...
Non, il y a deux écoles. Déjà, la coalition a dit nous n'engagerons pas d'hommes de troupes sur le terrain. Or, reprendre Kobané, par exemple, ou les trois grands quartiers qui sont maintenant aux mains des djihadistes, serait impossible sans une intervention territoriale, quoi. Donc, la coalition se contente de bombarder. Simplement, les bombardements, ça règle rien. Ça peut ralentir la progression des troupes de l'État islamique. Mais ils sont instruits par leurs échecs, ces combattants djihadistes. Quand il y a des avions qui viennent, eh bien, ils se dispersent, ils changent de position, leur entrepôt d'armes, leurs mouvements de troupes sont bouleversés, et c'est ce qu'ils ont fait, malgré les bombardements de la coalition, donc, ils ont réussi à pénétrer dans la ville, parce qu'ils se divisent en petits commandos, et là, c'est pratiquement impossible pour des avions de bombarder avec précision ces commandos-là.
Mathias, on a répondu à vos questions?
Oui, sauf que la deuxième, on a souvent entendu, l'EIL est à 10 km de Kobané, l'EIL est à 5 km de Kobané, l'EIL est à 5 km de Kobané. Oui. Pendant, qu'est-ce que la coalition faisait pendant ce temps?
Que faisait la coalition? Ah oui, effectivement, quand il dit l'EIL, l'organisation État islamique avançait vers Kobané.
Alors, la coalition, elle est plutôt gênée aux entournures. Parce que si elle intervient plus massivement, disons, imaginons qu'elle accepte d'envoyer les troupes au sol. Elle sauverait la mise donc aux Kurdes de Syrie, mais ça rendrait encore plus grincheux la Turquie. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure.
Ouais.
Ensuite, intervenir sur le sol pour sauver Kobané, il y aura probablement des pertes humaines du côté de la coalition, et ça a un coût politique dans les pays que l'on connaît, notamment aux États-Unis, puisque vous vous rappelez, Obama avait fait de son programme finir toutes les guerres et retirer tous les soldats américains de la région. Donc, elle fait pas grand-chose, c'est vrai. Force est de le constater. Elle se contente que de bombarder, que de ralentir la progression des djihadistes.
Autre question, Toufik Ben Aïchouch. Bruno nous rejoint, il nous appelle de Kinshasa. Bonjour Bruno.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale.
On vous écoute.
Oui. Je voudrais savoir la position de l'Iran face à cette guerre contre l'État islamique et quel est son rôle.
Alors, l'Iran, allié, rappelons-le, du gouvernement irakien, mais aussi un allié de poids du régime syrien. Quelle est la position de Téhéran en ce moment face à la coalition internationale?
Téhéran a beau jeu. Téhéran a beau jeu de dire, vous savez, on peut pas venir à bout de ce problème sans intervention au sol. L'image qui avait été employée, c'était on voudrait tuer des moustiques mais sans assécher les marécages. Enfin, il y a un moment, il faut descendre au sol et se battre, voilà. Donc, ce que se refuse la coalition. Et puis l'Iran... excusez-moi, mais la leçon à recevoir de pas grand monde sur ce plan-là. L'Iran, elle a aidé à constituer l'État irakien, et aujourd'hui encore, dès la chute de Saddam Hussein. Je vous avais dit un jour en venant chez vous qu'il faut pas toujours croire les diplomates. C'est l'Iran qui s'est battu aux côtés de l'armée américaine pour venir à bout des partisans d'Al-Qaïda. Rappelez-vous la bataille de Fallujah, par exemple. Tous ces événements-là. C'est l'Iran qui a des passes d'armes sur place, qui a d'autres, il y a même des gardiens de la révolution iranienne, il y a des membres de la force Al-Quds. Ceci, ce sont des corps expéditionnels.
Donc tous ces corps expéditionnels iraniens sont aujourd'hui en Irak.
Depuis des années, depuis la chute de Saddam Hussein.
Et aujourd'hui, ils permettent d'une certaine façon à la coalition d'essayer de terminer le travail.
Mais en tout cas, ils pallient ce que la coalition a gâché. Parce qu'en fait, c'est les États-Unis qui géraient l'Irak. Regardez ce que ça a donné. Plus d'État et plus d'armée, en deux mots. Donc c'est l'Iran qui a toujours été présent. L'Iran s'est battu tout dernièrement encore aux côtés des Peshmerga, quand l'État islamique a pris
les combattants kurdes.
Oui, les combattants kurdes d'Erbil, c'est-à-dire du Kurdistan irakien. Ce sont les Peshmerga qui ont empêché la progression des djihadistes de l'État islamique, alliés avec les corps spéciaux iraniens. C'est notoire, même les Peshmerga le reconnaissent. Donc elle a un rôle. Simplement, l'Iran dit en même temps pour ce qui concerne la Syrie, nous vous avions dit, Bachar el-Assad a raison, il dit qu'il se bat contre des
terroristes islamistes. Ouais, ouais.
Bon, ben voilà, donc il fallait pas toucher à Bachar el-Assad, ça a augmenté le problème, donc c'est leur version des faits. Mais voilà, et ils disent encore aujourd'hui, si on veut venir à bout en Syrie des islamistes, il faut s'allier avec Bachar el-Assad.
Eh bien, on va parler
ce
maintenant...
Ce qu'a fait l'Iran avec le Hezbollah.
Effectivement, le Hezbollah qui a déployé en Syrie depuis maintenant
des
milliers d'hommes pour combattre aux côtés des troupes de Bachar el-Assad. Vous parliez à l'instant des alliés de Bachar el-Assad, on va justement s'intéresser à la Russie. Fresnel, bonjour.
Bonjour.
Vous avez une question, vous êtes à Brazzaville, hein, vous avez une question concernant la Russie.
Oui, j'ai une question concernant la Russie, parce que jusqu'alors la Russie soutient Bachar el-Assad. Et pourquoi il ne s'est pas allié à la coalition pour faire face au Daesh?
Alors, pourquoi la Russie ne s'est-elle pas alliée à la coalition contre les djihadistes de l'État islamique?
Bah d'abord, la Russie a un mauvais souvenir quand on parle de coalition. Hein. Souvenez-vous, pour la Libye, on lui avait demandé un vote aux Nations Unies pour intervenir de manière humanitaire, sauver des populations. Elle a voté en ce sens, la Russie, et puis elle a découvert qu'en fait, elle avait voté pour qu'on tue Kadhafi.
Mohamed Kadhafi, oui.
Ce qui n'était pas le mandat initialement demandé, premièrement. Donc, quand on lui parle de coalition, elle est prudente. Ensuite, la Russie a la même analyse que l'Iran sur ce terme, en disant que tout a commencé en Syrie, ce qui est vrai, puisque l'État islamique est né là-bas. Et que donc, son allié, c'est Bachar el-Assad, alors pour des raisons aussi géostratégiques très connues. C'est-à-dire que le seul port dont dispose la Russie pour faire manœuvrer ses navires en mer Méditerranée, c'est le port syrien de Tartous. Elle a des facilités depuis des années, depuis une quarantaine d'années, sur cette question. Et la chute de Bachar el-Assad aurait compromis cet accès à la Méditerranée. Donc, au moins pour ça, elle est contre. Ensuite, elle tient le même discours que Bachar el-Assad. Elle dit, en fait, c'est avec l'armée syrienne qu'il faut compter pour combattre les islamistes. Voilà.
À suivre, donc. Merci, Toufik, d'avoir pris le temps ce matin d'être venu répondre à quelques-unes des questions. C'est un plaisir. Merci à vous. Plaisir partagé. 33 9 693 693 70. Vos questions à la rédaction. Amadou, bonjour.
Bonjour Yannick, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous avez des questions concernant la dette de la France?
Oui, bien sûr, monsieur Yann. Au fait, la dette publique française a atteint un nouveau record en atteignant la barre symbolique de 2 000 milliards d'euros.
Ouais.
Du coup, j'ai deux questions.
Allez-y.
Disons trois. Au fait, comment expliquer la dette ne cesse d'augmenter alors que les Français n'ont jamais payé de tant d'impôts et de cotisations en France?
Alors, on va déjà répondre à cette question avec Myriam Berber du service économique d'RFI. Bonjour Myriam.
Bonjour à tous.
C'est vrai que la dette, quand on regarde ce chiffre, 2000 milliards d'euros, c'est un montant vertigineux. Comment expliquer que cette dette ne cesse d'augmenter depuis 30-40 ans?
Alors justement, 2000 milliards d'euros, cela représente un peu plus de 95% du produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse produite en un an par la France. Comme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France détient une dette qui se rapproche des 100% de sa richesse nationale. Rappelons-le, la dette publique, c'est l'ensemble des engagements financiers sous forme d'emprunts pris par l'État, les collectivités territoriales et les organismes publics. La dette, c'est le cumul des déficits. Plus on a de déficits, plus on a de la dette. C'est mécanique. Alors, revenons-en à cette hausse de la dette. Mmh. Elle est due essentiellement à l'État central qui a beaucoup dépensé au cours des 10 dernières années. La dette a doublé entre 2004 et 2014, passant de plus de 900 milliards d'euros à 2000 milliards, dont 600 milliards durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Malgré les économies réalisées et l'augmentation des rentrées fiscales, c'est-à-dire les impôts, les dépenses publiques ont gonflé depuis la crise de 2008. La faute à la récession, la faute à la hausse du chômage qui ont fait s'envoler les dépenses sociales. Mais surtout, Amadou, il faut rappeler que depuis 7 ans, au-delà du stock de la dette, la France n'a pas assez de croissance pour rembourser les intérêts de cette dette. Donc, pour payer les intérêts, la France doit encore s'endetter.
Oui, cercle vicieux. Vous aviez une autre question, Amadou ?
Oui, monsieur Yann. Au fait, la deuxième question, c'était de savoir qui détient déjà qui prête de l'argent à la France, en fait, et qui détient cette dette ?
Ah, qui prête de l'argent à l'État français ?
Alors, si on se réfère à l'Agence française du Trésor, l'AFT, eh bien, les premiers détenteurs de la dette française sont principalement des investisseurs étrangers. Ils détiennent près de 65% de cette dette. On le voit, les investisseurs étrangers continuent d'acheter de la dette française. Ils ont confiance. La France n'a jamais emprunté à des taux aussi bas sur les marchés financiers. Ensuite viennent les banques et les investisseurs institutionnels qui en détiennent 20%. Et puis enfin, les compagnies d'assurance, 15%. La France, comme la majorité des pays de la zone euro, fait davantage appel aux investisseurs étrangers, alors que les États-Unis ou bien encore le Japon, eux, les principaux créanciers de l'État japonais sont les Japonais eux-mêmes.
Effectivement. Grande différence. Merci Myriam Barber d'être venue répondre à Amadou. Il nous reste encore 4 minutes. Une dernière question. Steve, bonjour. Allô, allô, Steve.
Bonjour.
Bonjour, on vous entend très très loin. Vous nous appelez de Yaoundé, vous avez des questions concernant Boko Haram, le groupe islamiste qui sème la terreur dans le nord-est du Nigeria.
Oui, bonjour. Le 26 septembre dernier, l'armée nigériane a annoncé le décès d'Aboubakar Sékou, le chef islamiste de Boko Haram. Information qui a été par la suite démentie. Alors, je voudrais savoir comment expliquer cette course d'annonce. Et faire une heure à répétition sur la mort du chef de Boko Haram.
Bon, le réseau, excusez-moi, n'est pas très bon. En tout cas, moi, j'ai du mal à vous comprendre dans mon cas. Vous vouliez comprendre comment expliquer qu'on annonce, enfin, que les forces armées nigérianes annoncent la mort du numéro 1 de Boko Haram et que, quelques semaines plus tard, eh bien, le même Aboubakar Sékou apparaît sur une vidéo. Priscilla Sadachi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Vous travaillez particulièrement sur les groupes armés en Afrique de l'Ouest. C'est vrai que l'armée nigériane avait assuré qu'Aboubakar Sékou était mort, qu'elle avait tué le numéro 1 de Boko Haram. Et jeudi dernier, le numéro 1 réapparaît dans une vidéo. Comment expliquer ?
Alors, en effet, l'armée nigériane a déjà annoncé la mort d'Aboubakar Sékou à plusieurs reprises, au moins 3 reprises, donc en 2009, en 2013 et donc dernièrement en septembre.
Oui.
Et à chaque fois, l'information a été démentie avec une vidéo d'un homme se présentant comme Aboubakar Sékou à l'appui. Donc, il y a plusieurs explications possibles.
Quand vous dites qu'un homme se présentant comme étant Aboubakar Sékou, ça signifie qu'on n'est pas sûr que ce soit le numéro 1 de Boko Haram sur cette vidéo ?
Alors, en fait, il y a plusieurs hypothèses et plusieurs spécialistes doutent de l'identité des hommes présents sur les vidéos. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, vu la qualité de l'image, il est très difficile de l'identifier clairement et être sûr à 100% de son identité. Et plusieurs inconsistances ont été relevées dans les différentes vidéos. Parfois il est un peu plus gros, ouais. Parfois son nez a une forme différente, il se comporte et parle différemment, etc.
D'accord, donc il peut y avoir des doutes. Pour répondre directement à la question de Steve, car on a très peu de temps, comment expliquer toutes ces rumeurs véhiculées par l'armée nigériane ?
Donc il peut y avoir plusieurs explications possibles. D'abord, il peut y avoir une défaillance au niveau du renseignement, avec des officiels qui vont un peu trop vite en besogne et qui ne prennent pas forcément le temps de vérifier les informations reçues. Mmh. Et il peut aussi s'agir d'une stratégie visant à démoraliser les hommes de Sékou et à rebooster les troupes nigériennes. Parce qu'il faut rappeler le contexte, l'annonce est intervenue alors que Boko Haram avait pris le contrôle de plusieurs localités dans le Borno, mais aussi dans les États de Dawama et de Yobe.
Oui.
Annonçant un califat dans cette région.
Donc l'idée finalement, c'est d'essayer de démoraliser les troupes, d'affaiblir psychologiquement Boko Haram. Merci d'avoir été avec nous, Priscilla Sadachi, chercheur associé au CRIP. Restez avec nous dans un instant, le point complet sur l'actualité. Et dans 10